Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, les pauvres face aux riches, les protecteurs de l'environnement face aux destructeurs, les jeunes face aux vieux. Nous traversons une période clivante où, sur fond de crise écologique, économique et sociale, le malaise grandit. La violence s'exprime dans les rues de Hong Kong, de France, du Chili ou du Liban, car la colère et le désespoir semblent l'emporter sur le rêve et l'espérance. Comme l'explique le géopolitologue Dominique Moisy, ce qui s'exprime partout à des degrés d'intensité et sous des formes diverses, c'est la quête de dignité et de respect des peuples. Des peuples, trop longtemps humiliés, ignorés, méprisés par des élites politiques irresponsables, corrompues et lointaines, qui aujourd'hui semblent incapables d'agir efficacement pour relancer l'espoir d'un futur harmonieux pour l'humanité. Dans ce contexte, penser avec un A, soigner donc, serait la tâche par excellence du 21e siècle. Notre invité vient de publier le deuxième volume de Qu'appelle-t-on penser aux éditions Les Liens qui libèrent. Après L'immense régression parue l'année dernière, le philosophe Bernard Stiegler poursuit sa réflexion avec la leçon de Greta Thunberg.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Bernard Stiegler.
Bonjour.
Vous avez un parcours que je trouve personnellement fascinant. Vous avez déjà vécu plusieurs vies, en fait, dans votre vie. Militant communiste, ouvrier, artisan, agriculteur, restaurateur. Vous avez même fait quelques années de prison pour braquage que vous avez mis à profit pour étudier la philosophie et la linguistique. Et résultat, à 67 ans, vous êtes reconnu comme l'un des plus grands philosophes de votre génération. Vous avez fondé, entre autres, l'association Ars Industrialis et l'Institut de Recherche et d'Innovation au Centre Pompidou, où vous étudiez, on va en parler, l'impact des nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, si nous vous recevons dans C'est pas du vent, c'est parce que vous vous intéressez désormais à la dégradation de l'environnement. Vous soutenez notamment Greta Thunberg. Greta Thunberg qui s'est rendue cette semaine à Davos, le Forum économique mondial qui réunit pour la 50e année dans la petite station suisse plus de 3000 personnes d'une centaine de pays, ceux que l'on appelle les plus grands leaders mondiaux de la politique, de l'économie, de la société civile, de la science, des médias et des arts, autour d'un thème pour un monde rassembleur et durable. Mounia Daoudi était sur place.
Donald Trump est l'invité d'honneur de cette 50e édition du Forum de Davos. Et même si l'urgence climatique est dans tous les esprits, ce ne sont pas les grands patrons qui lui porteront la contradiction sur ce dossier. Ils ont en effet d'autres préoccupations en tête, comme les conflits commerciaux, les tensions géopolitiques et surtout la volatilité de l'économie qui compromet leurs perspectives de développement. L'environnement ne fait même plus partie de leurs 10 premiers motifs d'inquiétude. Non, la contradiction viendra d'ailleurs. Une heure après l'intervention de Donald Trump, Greta Thunberg doit participer à une table ronde sur les moyens de prévenir une apocalypse climatique. Pour la deuxième année consécutive, la jeune militante suédoise fait le déplacement à Davos pour presser la communauté internationale et surtout le monde des affaires d'agir face à l'urgence climatique.
One year ago, I came to Davos.
Il y a un an, je suis venue à Davos pour vous dire que notre maison est en train de brûler. Je vous disais que je voulais que vous vous affoliez de cette situation. On m'a prévenu que dire aux gens de s'inquiéter de la crise climatique était une chose dangereuse à faire. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai déjà fait ce genre de discours et rassurez-vous, cela ne mène à rien. Et pour info, quand nous les enfants vous disons de paniquer, nous ne vous demandons pas de faire comme avant. Nous ne vous disons pas de compter sur des technologies qui n'existent même pas aujourd'hui et qui n'existeront peut-être jamais. Nous ne vous disons pas de continuer à parler d'atteindre la neutralité carbone en trichant et en jouant avec les chiffres. Nous ne vous disons pas de compenser vos émissions de carbone en payant quelqu'un d'autre pour planter des arbres en Afrique. Alors que pendant ce temps, des forêts comme l'Amazonie sont abattues à un rythme toujours plus élevé. Bien sûr que planter des arbres est quelque chose de positif, mais ça ne s'approche en rien de ce vers quoi nous devons tendre et ne peut en aucun cas remplacer une véritable atténuation. Soyons clairs, nous n'avons pas besoin d'une économie bas carbone. Nos émissions de CO2 doivent s'arrêter si nous voulons une chance de rester en dessous des 1,5 degrés.
Bernard Stiegler, nous venons d'entendre les paroles que Greta Thunberg a prononcées ce mardi au Forum mondial de Davos. Comment vous réagissez à ces propos ?
À chaque fois, je suis estomaqué par l'intelligence.
Qu'est-ce qui vous fascine chez elle ?
Cette espèce de, je sais pas comment dire, une innocence armée de tous les concepts possibles. Une innocence extra-lucide. Et aussi le fait qu'elle n'est absolument pas impressionnée par la mise en spectacle, les caméras. Elle ne joue pas du tout un rôle. Absolument pas, à chaque fois. Elle est complètement impeccable. Et on est très nombreux.
Pourquoi est-ce que vous êtes ému ?
Parce que ce qu'elle dit est très grave. Et malheureusement, elle dit la vérité.
Ça vous émeut, en fait, qu'une jeune fille comme ça, de 16 ans, prenne la parole ?
Moi, ce qui m'émeut, c'est que ce qu'elle dit, je le sais. Je me bats depuis des années pour ça. Ouais. Pas du tout comme elle. Que oui, elle disait, par exemple, la première fois qu'elle a été remarquée à Katowice, vous êtes des grands-parents, vous tenez à vos enfants, mais en fait, vous en foutez. Mais c'est tout à fait vrai. Moi, je suis grand-père et père. Et par ailleurs, j'accorde la plus grande importance aux générations qui vont me suivre. Et elle met en évidence, terrible, vous parliez de clivage dans votre présentation, nous sommes dans un monde archi-clivé, comme ça n'a jamais été le cas. Jamais. Il y a eu, à la Renaissance, un clivage en Europe, par exemple, entre les papistes, comme on les appelait, et les réformistes, ça a donné le catholicisme et le protestantisme. 20 millions de morts, quand même. Mais c'était beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des milliards de morts potentiels. Et à travers, bien entendu, des conflits qui existent déjà, des guerres extrêmement nombreuses, des incendies, comme il y en a partout. Il y a aussi des morts animaux. C'est très grave aussi. Je ne fais pas partie des gens de la deep ecology, mais je considère que c'est quand même extrêmement grave. On ne peut pas s'en foutre. Et par ailleurs, l'humanité est réellement menacée à très court terme. Voilà. Alors, ce qui m'émeut beaucoup chez cette jeune femme, moi je l'appelle Thunberg. Beaucoup de gens l'appellent Greta. Moi je l'appelle Thunberg parce que je dis, Emmanuel Kant a dit « ose savoir » au début de l'Anthropocène. Et Greta Thunberg, donc Thunberg dit à la fin de l'Anthropocène, comment osez-vous ? Je pense qu'elle entrera dans la postérité comme Emmanuel Kant. Je le crois parce que je pense qu'elle a une carrure extraordinaire et qu'en plus elle mobilise des millions de gens. Et donc elle les mobilise sur quoi ? Sur les vraies questions, en n'ayant pas peur, en ne se laissant pas du tout impressionner. Quand je vous dis ça, je ne dis pas que je dis amen à tout ce qu'elle dit. Hein. Elle prend des positions archi-radicales. Elle dit « je ne prendrai pas l'avion ». Alors on la ridiculise parce qu'elle a pris un bateau dont le skipper a dû prendre l'avion et deux personnes ont pris l'avion. Bon, elle a des principes. Elle applique ses principes. Je pense qu'elle a raison. Après, moi je ne dis pas la même chose qu'elle. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout de suite les émissions carbone. Ce n'est pas possible. Tout simplement. Ce n'est absolument pas possible.
Alors on va revenir sur les solutions que vous proposez tout à l'heure. Mais vous le disiez, elle mobilise énormément de gens. Son discours a incité les jeunes à manifester à travers le monde. On l'a vu dans tous les pays, notamment le vendredi. Et à Davos, il y avait 8 autres jeunes qui se sont exprimés, dont la Sud-Africaine Ayaka Melitafa, 17 ans.
Je suis devenue une activiste du climat il y a 2 ans quand ma famille a été durement impactée par la sécheresse qui a touché la province du Cap-Oriental. Ma mère est fermière et ses revenus proviennent de l'agriculture. La voir se battre à ce point pour sa famille m'a donné envie de rejoindre Greta Thunberg et d'ajouter ma voix. Je souhaite vraiment rencontrer le président sud-africain pour lui montrer que la jeunesse sud-africaine s'est réveillée et voir comment nous pouvons avancer ensemble en tant que pays, comment mieux mettre en œuvre les réformes menées et comment arrêter de juste s'excuser et simplement foncer.
Alors, Ayaka Melitafa a signé avec 14 autres jeunes la plainte contre l'Argentine, le Brésil, la France, l'Allemagne et la Turquie qui, selon eux, ne respectent pas la Convention des Nations Unies pour les droits des enfants puisque ces pays émettent trop de gaz à effet de serre et donc ne leur garantissent pas un avenir durable. Et finalement, ce sont ces jeunes qui mettent, et vous en parlez dans votre livre, les adultes face à leurs responsabilités. C'est nouveau, ça.
Ah, c'est totalement nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, par contre, c'est l'irresponsabilité croissante. J'avais publié, il y a déjà 7, 8 ans, même plus, 12 ans, un livre qui s'appelait « Prendre soin ». Le sous-titre, c'était « De la jeunesse et des générations », où j'essayais déjà de montrer que quand Mme Dati, qui était ministre de la Justice à l'époque, voulait supprimer l'excuse de minorité pour les gamins de 14 ans, par exemple, qui jusqu'alors ne pouvaient pas passer aux assises comme ça, etc., et que d'un seul coup, il s'agissait de faire comme en Amérique du Nord, parce que c'est toujours comme en Amérique du Nord, c'est-à-dire cogner, plus. Eh bien, ce qu'elle détruisait, c'est la majorité. Parce que si vous annulez la définition juridique de la minorité, du coup, vous annulez la responsabilité de la majorité. Et donc, la sienne. Elle supprimait sa propre responsabilité de ministre de la Justice. Parce que la responsabilité d'un ministre de la Justice, c'est pas du tout de réprimer, c'est de faire que la justice règne. Et c'est pas la répression qui fait régner la justice. Il faut la répression, mais c'est pas ça qui fait régner. Alors aujourd'hui, enfin, dans ce bouquin, j'avais essayé de montrer que depuis, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, un énorme système s'est mis en place pour irresponsabiliser les gens, pour jeter leur mégot par la fenêtre, pour jeter leur paquet de je sais pas quoi, de chips, je sais pas où, etc. Et finalement, ça s'appelle la société de consommation, qui est totalement irresponsable, qui pollue énormément. C'est ce que dit Greta Thunberg, et elle a absolument raison. Et il faut que ça cesse. Il faut absolument que ça cesse. Et pourquoi? Parce que c'est de toute façon, elle est en train de s'autodétruire. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un sujet sur ce qui s'est passé mardi à Davos. Bon, on a révélé un sondage, la 11e préoccupation des entreprises mondiales, la question du climat. Donc bien après, bien d'autres questions. Alors ça devrait évidemment être la première. Il y en a quelques-uns pour qui c'est la première préoccupation.
Ça commence.
Mais ça vient.
Ayons un peu d'espoir.
Non, mais ça vient. Enfin, ça vient, mais ça vient peut-être un peu tard. Voilà.
Et alors vous soutenez donc Greta Thunberg, on l'a bien entendu. Vous venez de créer avec des mathématiciens, des sociologues, des écrivains, puisque vous n'êtes pas tout seul, hein, des écrivains comme Jean-Marie Le Clézio, par exemple, l'association des amis de la génération Thunberg pour, écrivez-vous, contribuer à l'établissement d'un dialogue entre les générations. C'est ce qui manque selon vous ?
Absolument. Ce dialogue, de toute façon, est détruit, véritablement. Quand vous avez une affiche, par exemple, qui a été constituée par un État d'Allemagne, c'est une équipe d'une maternelle, je crois, qui a fait cette affiche, qui montre des parents qui regardent leur smartphone et un gosse qui les regarde et eux ne regardent pas le gosse. C'est catastrophique. Moi, je travaille en ce moment en Seine-Saint-Denis avec des gens dont les enfants sont devenus intoxiqués au smartphone. Ce sont des tout petits enfants. Et malheureusement, ils deviennent autistes, symptomatiquement, parce qu'en fait, nous travaillons avec une pédopsychiatre qui, elle, dit que ce ne sont pas de vrais autistes, on peut encore les soigner. Donc, nous les soignons en ce moment avec ses parents, qui reprennent leurs responsabilités, qui se désintoxiquent pour pouvoir désintoxiquer leurs gosses. Mais nous sommes dans une société complètement toxico. C'est l'addiction, de toute façon, qui fait régner le marché. C'est une honte absolue. Il y a une lâcheté des pouvoirs publics inimaginable par rapport à ces questions, parce que tout le monde sait ce qui se passe en réalité. Il y a même, je le dis sans me cacher, il y a eu un rapport de l'Académie des sciences qui est un scandale sur la question des écrans. C'est un scandale où on dit aux parents, mais non, c'est pas si grave, etc., il faut faire attention. Mais non, c'est extrêmement grave.
Voilà. Et vous pensez que cet impact du numérique joue sur la rupture générationnelle ?
Complètement.
Les gens ne se parlent plus, on ne partage
complètement.
Plus.
Complètement. De toute façon, ça joue sur tous les rapports. Pas simplement intergénérationnel, sur absolument tous les rapports. Les gens ne se parlent plus, effectivement, même dans le métro, ils ne se parlent plus, ils sont sur leur truc. Comprenez-moi bien, je dirige un institut qui développe des technologies comme ça. Donc moi, je ne dis pas du tout que le problème, c'est les smartphones. Le problème, c'est l'irresponsabilité. Et il faut avoir des pratiques responsables du smartphone. En ce moment, nous, par exemple, nous travaillons avec des parents qui ont une expérience d'intoxication personnelle, puis de leurs enfants, qui ont fait un formidable parcours sur eux-mêmes, et qui, en ce moment, travaillent avec d'autres parents pour les aider à se désintoxiquer, à désintoxiquer leurs
Comment
enfants.
Comment ça se passe, une intoxication, par exemple ?
Alors, ben ça, il m'est arrivé de dire une fois, mais c'est à peine exagéré, le smartphone sur un petit bébé d'un an, c'est comme le crack. Si vous lui donnez le smartphone une fois, après, il fait des crises terribles pour avoir le smartphone. Et vous cédez. Parce qu'il se met à hurler, il a des comportements, il y a plein de films en ligne que vous pouvez regarder. et j'en ai vu des centaines, moi, de ces films, il devient fou, comme un gamin qui a pris du crack. Si vous donnez du crack à un gosse, après, c'est terrible. Hein. Le crack, c'est ce qu'il y a de pire. C'est bien pire que l'héroïne. Bon. Mais le smartphone a des effets comme ça. Et on donne ça. Alors, non seulement on donne ça, mais on recommande de mettre des tablettes dans les maternelles. C'est quand même...
Mais comment vous faites le lien entre ça et la dégradation de l'environnement, la dégradation du monde, la dégradation du dialogue entre générations?
Ça, c'est la destruction de la société. Or, qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est ce qui prend soin de son environnement. Vous connaissez Elinor Ostrom, le prix Nobel d'économie, qui a reçu ce Nobel à cause de ses travaux sur les communs. Sur quoi est-ce qu'elle a travaillé? Par exemple, des Indiens d'Alaska. Et elle a montré comment ils prennent soin des ressources halieutiques, puisque ce sont des gens qui vivent beaucoup de la pêche du saumon, des poissons, etc. Et elle montre comment toute leur société est organisée pour prendre soin de leur environnement. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, alors nous ne sommes plus des tribus indiennes, amérindiennes du Canada ou des États-Unis. Nous sommes tout simplement bientôt 9 milliards sur cette planète. Dans une situation d'extrême urgence. Et donc, il faut absolument, et c'est pour ça que je soutiens complètement Greta Thunberg et sa génération, parce qu'aujourd'hui, elle représente des millions de jeunes. Des jeunes qui disent, ils font des procès, donc ils disent, il faut respecter le droit, il faut passer par la justice. Ils ne mettent pas de bombe, hein. Il faut faire attention, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne comme ça. Ils disent, il faut écouter la science. Mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux de la jeunesse? Ils sont responsables. Ils sont parfaitement responsables face à des irresponsables. Alors, ces irresponsables, on dit toujours sur les États, c'est pas que les États, c'est aussi les entreprises, mais c'est aussi les partis politiques en général, même ceux qui sont pas au gouvernement. Et donc, il s'agit de rééduquer, si je puis dire, les générations les unes à travers les autres. Donc, vous me demandiez pourquoi on a fait cette association? Pour nous rééduquer les uns les autres. Comme on le fait avec les smartphones, les bébés, les parents, etc., on se désintoxique, on se rééduque. Eh bien, là, on se dit, on a commencé à Genève, on s'est rencontrés avec une dizaine de membres de ces mouvements qu'a inspiré Greta Thunberg. On est en train de créer une école. On va mettre en ligne des choses. J'étais en discussion juste avant de venir ici avec un biologiste. On est en train de préparer un cours sur qu'est-ce que l'entropie dans le vivant. Voilà. Parce qu'il faut les outiller. Une chose que je leur ai dit à ces activistes qui suivent Greta Thunberg, elle dit écoutez les scientifiques. Nous disons d'accord. Mais il faut savoir que les scientifiques sont quand même pas toujours d'accord entre eux. Sur le climat, il n'y a pas de problème. Après, sur les causes, c'est une autre question. Donc, il faut rouvrir un débat scientifique, et un vrai débat scientifique, c'est-à-dire un débat de l'époque de ce qu'on appelait autrefois la République des lettres.
Alors, l'entropie, justement, nous allons en parler dans un instant. Vous restez avec nous, Bernard Stiegler, et on fait une petite pause musicale. Oh, yigui, yigui, yon dalomion. Oh, yigui, yigui, yon dalomion. Wado da okuma oyigi yigi odalo mi o.
Morir la llegan a mi guachango ya ni oro.
Alfredo Rodriguez dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesque qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon, lui expliquant « Ouais, c'est pas de bol. » Et on s'est rendu compte que c'était grotesque. Et maintenant, tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça, la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en compagnie du philosophe Bernard Stiegler qui vient de publier « Qu'appelle-t-on penser ? La leçon » de Greta Thunberg aux éditions Les liens qui libèrent. Vous expliquez dans votre livre, qui est une somme de 500 pages, que pour comprendre l'état du monde, il est crucial de partir de la notion d'entropie. Alors on va faire de la pédagogie sur RFI, expliquez-nous ce que c'est l'entropie.
Alors l'entropie c'est une longue histoire qui n'est pas terminée du tout d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas encore d'accord complet du monde scientifique sur sa définition et son extension. L'entropie, c'est, disons, un problème d'abord qui apparaît en 1824 autour de la machine à vapeur. Un ingénieur français qui est aussi physicien, très connu, Carnot, tente d'optimiser le fonctionnement de la machine à vapeur. Il en arrive à la conclusion que l'énergie se dissipe irréversiblement. Donc il fait ce constat empirique qui va être théorisé plus tard, en 1850 d'abord, puis 1865 et enfin 1873, par trois physiciens, anglais, allemands et autrichiens, qui vont donc élaborer ce concept d'entropie qui apparaît en tant que tel en 1865 et qui montre que l'énergie se dissipe nécessairement et irréversiblement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un radiateur dans une pièce de 40 mètres carrés, ben dans un coin de la pièce il fait chaud, dans l'autre il fait froid, mais au bout d'un certain temps ça s'homogénéise. Voilà. Si vous buvez un verre de thé, il est à 80 degrés, vous bouez les doigts, mais au bout de 10 minutes il est passé à 60 degrés, et puis bientôt
l'énergie est passée ailleurs.
L'énergie s'est répandue. La matière, c'est de l'énergie. Ça veut donc dire aussi que la matière est condamnée à se désordonner. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire se désordonner ? Si vous allez sur les plages de Bretagne magnifiques où il y a du très beau granit, vous voyez aussi du sable. Ce sable, c'est aussi du granit en fait qui s'est dégradé. Voilà. Pas forcément que du granit, mais etc., etc. Donc tout ce qui relève de la corrosion, l'érosion, toutes ces questions-là, ce sont des modalités de l'entropie en réalité. Alors, ça veut dire aussi à partir de 1924. Suite à l'observation d'Edwin Hubble du fait que l'univers est en expansion, et bien que c'est l'univers en totalité qui refroidit, c'est ce que les Américains appellent le cooling, et que l'univers ne disparaîtra pas, mais de manière indéfinie, il est en train de s'uniformiser, de se désordonner, que les planètes refroidissent, s'éteignent, le Soleil est voué à s'éteindre dans quelques milliards d'années, etc., etc. Donc tout est voué à disparaître. Moi, je dis parfois, le premier qui a dit ça, c'est la Bible, en fait, c'est la Genèse. Hein.
Et donc, voilà. Vous parlez d'entropie, évidemment, on comprend avec le dérèglement climatique, hein, l'énergie du soleil qui arrive sur la Terre, qui repart vers l'atmosphère, d'entropie biologique, avec la disparition de la biodiversité, et d'entropie informationnelle, avec la montée en puissance des big data et des algorithmes.
Voilà, l'entropie, ça se décline, en fait, effectivement, sur divers registres, en particulier les registres biologiques, tout d'abord. Et de manière négative. C'est-à-dire qu'en 1944, un physicien très connu, Schrödinger, pose que le vivant, c'est en fait ce qui a la capacité à différer l'entropie. Non pas à l'éviter complètement, puisque le vivant meurt de toute façon, mais à la différer. Par exemple, empiriquement, théoriquement, vous constatez que vous maintenez votre température à 37 degrés. En dessous de 35, vous êtes mort. Au-dessus de 42, vous êtes mort aussi. Donc,
oui, on peut dire voilà. Que quand on mange, on consomme de l'énergie voilà. Et ensuite, on la relâche.
Exactement. Mmh. Mais on maintient homéostatiquement sa structure. Voilà, c'est ça, le vivant, c'est ce qui est capable non seulement de maintenir sa structure, mais de la reproduire, etc. etc. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'entropie négative. C'est ce que Schrödinger va appeler l'entropie négative. Concept qui va être repris plus tard par un autre philosophe, Léon Brillouin, qui lui-même va se servir du concept de la théorie de l'information, qui va être, donc, la théorie de l'information va être également une théorie de l'entropie et de la négentropie en matière d'information. Si, par exemple, une nouvelle se diffuse, ça c'est ce que Havas découvre au XIXe siècle, en créant l'agence Havas, une nouvelle que personne ne connaît, une très grande valeur, plus elle se diffuse, plus elle perd sa valeur, c'est aussi de l'entropie informationnelle.
Alors, face à la crise écologique que nous avons aujourd'hui, en quoi cette notion d'entropie peut nous être utile ?
Eh bien, elle est absolument fondamentale, parce que ce qu'on appelle l'anthropocène, moi je l'écris avec un E et sans H, l'anthropocène, c'est l'augmentation généralisée de l'entropie. C'est la dissémination et la consommation de tout ce qui est consommable, le pétrole, le charbon, etc. Et la dissémination de cette énergie qui, pour le moment, produit dans la bulle qui est autour de la Terre, qu'on appelle la biosphère, une élévation de la température. Voilà. C'est la destruction de la biodiversité qui est catastrophique, qui était énorme en l'espace de 100 ans. Plus de la moitié des espèces ont été détruites. C'est absolument incroyable. Littéralement incroyable. Et il y a une accélération de cette destruction. Les insectes, c'est catastrophique en France et aux États-Unis et en Chine, c'est absolument catastrophique. Mais par ailleurs, il y a une bêtise qui règne partout, qui est quand même très visible et qui est produite par l'entropie informationnelle. Toute cette histoire sur les fake news, la post-vérité, la défiance généralisée est provoquée par l'entropie informationnelle aussi. Donc c'est extrêmement dangereux. Ça fait un cocktail, je dirais, de problèmes très, très, très nombreux. Si on y ajoute à ça les tensions économiques, les difficultés que provoquent les changements climatiques, etc., il faut absolument réagir. Donc nous disons, il faut regarder cette situation d'abord avec un regard scientifique et avec cette notion d'entropie du point de vue des thermodynamiciens, donc de la physique, du point de vue des biologistes, des zoologues, etc., et du point de vue des spécialistes de la théorie de l'information, de l'épistémologie, du savoir.
Et alors, quand on parle d'entropie informationnelle, vous dites que cette innovation technologique devient autodestructrice en court-circuitant l'exercice de la puissance publique et en désorganisant les structures sociales existantes, et elle génère des inégalités, comme celle pointée cette semaine par l'ONG Oxfam, que nous explique leur porte-parole, Pauline Leclerc.
Ce que Oxfam veut montrer, c'est que le niveau d'inégalité atteint des proportions démentielles, absurdes. Ces niveaux d'inégalité, ils sont le signe d'un système économique défaillant. Il n'est pas admissible qu'une extrême richesse qui se concentre entre les mains d'une poignée de milliardaires côtoie une pauvreté qui est encore très importante. Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. Depuis 2013, la réduction de la pauvreté a réduit de moitié, c'est extrêmement grave. Et il y a un continent aujourd'hui qui souffre énormément de cette situation, c'est le continent africain où la pauvreté gagne du terrain encore aujourd'hui. Il va falloir des efforts considérables pour enrayer ce fléau.
Bernard Stiegler, comment vous réagissez à ces propos ? Là aussi, c'est un signe que ça va mal quand même.
Ça va extrêmement mal et ça va mal sur toutes sortes de registres malheureusement. Il y a des gens qui annonçaient ces difficultés. Il y en a eu beaucoup. Parmi eux, il y avait John Maynard Keynes, qui a écrit une lettre à mes petits-enfants, à nos petits-enfants. Voilà, où il dit ce que j'ai mis en place dans les années 30 avec Roosevelt, ça n'ira pas.
Donc l'économiste, hein, Keynes.
L'économiste John Maynard Keynes, donc, qui a, avec Roosevelt, le président des États-Unis, a conçu et concrétisé ce qu'on appelle le New Deal, le Welfare State, et tout le modèle qui a conduit ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, à ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, c'est-à-dire l'époque où le capitalisme occidental, disons, avait l'air de se porter très très bien. Mais précisément, est-ce qu'il avait conscience de toutes les difficultés qu'il allait provoquer, notamment la consommation de ressources incroyables qu'il produisait, les conditions aussi de cette génération de profits à travers quand même un dépouillement de toutes sortes de pays autour de l'Europe et des États-Unis auxquels on prenait leur cuivre, leurs diamants, etc., etc. Et bref, et puis leur pétrole, leurs ressources minérales, tout cela, Keynes disait, ça ne pourra pas durer éternellement. Parce que le système économique, de toute façon, va se transformer à cause de la technologie. Et donc, il faut prévoir de grandes transformations. Parmi ces grandes transformations, il y a en particulier l'automatisation. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Pour une raison très précise, qui est que pendant longtemps, l'automatisation a produit de l'emploi. À présent, on n'en produit plus.
Et donc, voire elle prend des emplois.
Elle détruit des emplois aujourd'hui. L'OCDE considère que 14% des emplois à échéance de 20 ans sont appelés à disparaître. Et ça, c'est extrêmement grave parce que l'économie mondiale est déjà en très très mauvaise posture puisqu'elle est insolvable. Hein. Si elle fonctionne, c'est parce qu'on se fait un crédit sur l'avenir qui est exorbitant et qui est spéculatif en plus, donc extrêmement dangereux. Voilà. Il y a eu 2008, il va y avoir très certainement une nouvelle crise financière et les États ne pourront pas refinancer cette fois-ci. Donc il y a vraiment des gros problèmes qui se présentent à l'horizon. Et dans ces problèmes, il y a d'abord un grand déséquilibre qui est la pauvreté. L'extrême pauvreté et la misère même, parlons clairement. Pourquoi ? Parce que ce qui est vrai entre, par exemple, aujourd'hui, il y a des écarts de salaire absolument inouïs entre les gens les plus riches du monde et les plus pauvres. C'est d'un facteur de plusieurs milliers, un coefficient, voire 10 000, je crois, j'ai entendu 10 000, voilà, un coefficient de 10 000. Mais en France même, autrefois, quand j'étais gamin, moi, quand j'avais 20 ans, disons, l'écart de salaire, c'était 50. C'est-à-dire que si vous aviez un ouvrier qui gagnait 1 000 euros dans une entreprise, le patron gagnait 50 000 euros maximum.
Donc il y a un accroissement colossal énorme, de ces inégalités
énorme,
qui crée ces révoltes que l'on voit partout.
Oui, mais qui par ailleurs est insolvable. Et alors comme c'est insolvable, on crée des dispositifs spéculatifs comme les subprimes qui augmentent l'insolvabilité, mais qui la dissimulent.
Parce que donc, ça remet du crédit, donc oui, de l'illusion de l'argent
de l'illusion
en circulation.
Qu'à un moment donné, il faut payer dans tous les cas. Mais du coup, on est dans une économie spéculative, ce qu'on a appelé l'économie casino, qui est provoquée par ça et qui aggrave les inégalités encore plus. Ça, c'est les inégalités, disons, économiques. Mais il y a les inégalités environnementales, qui sont extrêmement graves. Voilà. Moi, je travaille avec un certain nombre de pays du Sud, qui sont très, très, très exposés, évidemment, au réchauffement climatique, évidemment à la montée des eaux, évidemment à, en fait, d'innombrables menaces, voilà, et par rapport auxquelles il est urgentissime aujourd'hui d'inventer ce que nous appelons, nous, une nouvelle macroéconomie. Alors, qu'est-ce que c'est que la macroéconomie ? C'est ce qui régule les relations entre les acteurs microéconomiques. Qu'est-ce que c'est que la microéconomie ? Ben, c'est le commerçant du coin, c'est le fabricant de chaussures du coin, c'est l'agriculteur du coin. Tout ça, ce sont des activités microéconomiques, mais elles ne peuvent entrer en relation entre elles qu'à travers une macroéconomie. Cette macroéconomie, elle définit des règles. Pendant longtemps, ces règles ont été définies par les États. Depuis maintenant quelques décennies, elles sont définies par la Banque mondiale, le FMI et l'OMC. Et ces règles, eh bien, elles sont devenues iniques. Pourquoi ? Parce qu'elles récompensent l'entropie. Elles sont fondées sur la valorisation de l'entropie. Et c'est absolument catastrophique, puisqu'en plus, elles détruisent leur propre activité à terme. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens du patronat intelligents et un peu plus honnêtes, je dirais, qui, avec eux-mêmes, je veux dire, je ne veux pas dire que les gens du patronat sont malhonnêtes, je veux dire qu'il y a une lâcheté avec soi-même à ne pas vouloir regarder la réalité en face. Il y en a qui veulent la regarder en face. Et qui se disent, mais effectivement, nous sommes nous-mêmes menacés à court terme. Donc il faut absolument trouver autre chose. Pour ça, il faut expérimenter.
Alors, face à cet état des lieux, vous avez récemment interpellé le secrétaire général des Nations Unies à Genève avec un collectif international de 60 scientifiques. Nous en parlons juste après une pause musicale. Oh no! C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie du philosophe Bernard Stiegler qui vient de publier Qu'appelle-t-on penser ? La leçon de Greta Thunberg aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, dans votre livre, vous expliquez que nous avons besoin de lire le monde autrement et notamment de repenser notre approche économique. C'est aussi l'avis de l'économiste Éloi Laurent qui vient de publier Sortir de la croissance, là aussi aux éditions Les Liens qui libèrent.
Le bien-être humain, une vie heureuse, dirait, aurait dit Aristote, c'est quoi ? C'est en fait pour tout le monde instinctivement la santé, l'éducation, le bonheur, le temps passé avec ses enfants, avec ses amis, donc le temps libre, et puis plus largement les institutions, les inégalités, la confiance, et puis plus largement encore les dimensions de la biosphère, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Et bien, quand vous faites le rapport entre cette... Tous ces horizons du bien-être et ce que mesure le PIB, ce que je montre à un moment dans un graphique dans le livre, c'est qu'en fait le PIB mesure une part minuscule de tout cela. Et évidemment au 21e siècle, quand on a sous les yeux la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise démocratique, ça nous saute au visage. On est en fait prisonnier d'une boussole qui est une boussole du 20e siècle, voire même du 19e siècle, et on est au début du 21e siècle avec des crises qui sont absolument gigantesques sur les bras et on n'a pas d'indicateur fiable. Le problème, c'est que les gens pensent que la croissance est quelque chose d'abstrait, de philosophique qu'on pourrait mettre en adéquation avec le progrès. Mais c'est pas ça la croissance. La croissance, c'est un indicateur particulier et ça engage les politiques publiques. C'est que c'est la croissance du PIB et le PIB, il est encastré dans nos politiques publiques. Donc quand on fait des politiques économiques aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, on prend ça comme référence. Et si vous voulez faire augmenter le PIB, vous allez faire des politiques publiques qui vont faire augmenter le PIB, y compris au détriment de toutes les autres dimensions du bien-être. C'est-à-dire que vous allez détruire l'éducation pour faire augmenter le PIB. Vous allez détruire les écosystèmes pour faire augmenter le PIB, etc. etc. Donc c'est effectivement gravissime.
Bernard Stiegler, c'est gravissime. Comment réagissez-vous à ces propos d'Éloi Laurent ?
Ce que vient de décrire Éloi Laurent, avec qui j'étais au Collège de France, avec Alain Supiot au mois de mars dernier, puisqu'on a co-écrit un livre qui s'appelle « Le travail au XXIe siècle », il décrit ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'augmentation de l'entropie. Et ce qu'il dit à propos du PIB, c'est que le PIB valorise l'entropie. Et tout ce qui est négantropique, tout ce qui lutte contre l'entropie, est sorti de ce qui rapporte de l'argent. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la négantropie pour nous ? Chez les animaux, la négantropie, c'est la biologie, c'est ce qui permet aux animaux transformer de la matière inerte à travers les plantes, en général, pour eux, puisque ce sont les plantes qui, elles, transforment par la photosynthèse du carbone, etc., etc., en énergie qui leur permet de se maintenir, de maintenir leur structure. Nous, les êtres humains, nous faisons ça à travers des organes artificiels, à travers des outils, à travers des vêtements, des chaussures, à travers toutes sortes de choses. Et donc, le problème que nous avons, à la différence des animaux, c'est que nos organes artificiels, ils commencent par produire l'entropie. Spontanément. Et pour produire de la négantropie avec les organes artificiels, il faut savoir s'en servir. Donc il faut développer des savoirs. Or, depuis le début de l'ère anthropocène, s'est développée la prolétarisation. La prolétarisation, Marx et Engels, en 1848, disaient « c'est la perte de savoir de l'ouvrier ». Et ils ajoutaient « ça commence par les ouvriers, mais ça touchera tout le monde ». Aujourd'hui, ça touche tout le monde. J'avais montré dans un livre qu'Alan Greenspan lui-même se décrivait comme un prolétaire. Il disait « je ne sais plus comment ça marche, plus personne ne le sait ». En fait, le prolétaire ne sait pas comment marche la machine. machine qu'il utilise, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui utilise la machine, c'est la machine qui l'utilise. Alors, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut réinventer une vraie croissance. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la croissance, moi j'appelle ça une excroissance, c'est quelque chose qui a fait une excroissance sur la Terre, qui est en train de la détruire comme un cancer, ou une mécroissance, parce que ça détruit les vraies conditions de la croissance. Par exemple, Greta Thunberg dit « je veux croître, mais vous m'en empêchez ». Vous avez détruit les conditions de ma croissance, voilà, de ma vraie croissance à moi. Et donc, nous pensons qu'il faut réinventer une vraie croissance et qui soit basée sur la réinvention du travail. Quand je dis la réinvention du travail, c'est pas pour dire le travail rend libre, comme ça a pu être dit sur différents tons. Ça n'est pas pour faire une morale du travail et de la peine, parce qu'on confond généralement travail avec ponos, c'est-à-dire avec labor. En anglais, on peut dire travail labor, mais aussi work. Et c'est pas du tout la même chose. Le labor, c'est quand on est soumis à l'obligation de faire quelque chose, on est esclavagisé, même dans certains cas. Tandis que le work, c'est quand on fait quelque chose. Quand on fait élever son enfant, c'est un travail. Venir à RFI parler comme ça, c'est un travail. Mais c'est un travail qu'on fait pour le plaisir de le faire. Parce que voilà, on a l'impression de faire ce qu'on a envie de faire, de participer à la transformation du monde. Mmh. Quand on élève son enfant, on participe à la transformation de son enfant pour qu'il participe à la transformation du monde. C'est exaltant, magnifique. Et ça, il faut le réinventer. Et ça, ce n'est plus du tout valorisé. Ce qui est valorisé, c'est l'emploi. Et l'emploi est de plus en plus prolétarisé. Donc nous disons qu'il faut repenser l'économie autour du travail, non pas de ce que Sarkozy appelait la valeur travail, qui voulait désigner en fait l'emploi, mais le vrai travail. Par exemple, le travail qu'on ne paye pas. C'est pour ça que nous appuyons, à travers des expérimentations que nous faisons à Seine-Saint-Denis, sur le modèle des intermittents du spectacle, qui sont des gens qui travaillent beaucoup, mais Lazzarato et Corsani avaient montré qu'ils travaillent surtout quand ils n'ont pas l'emploi. Parce que quand ils ont un emploi, ça veut dire qu'ils ont un cacheton, comme on dit, voilà. Ils sont soumis à une obligation, ils ont un contrat de subordination, tandis que quand ils sont chez eux, tranquilles, ils font vraiment leur travail. Ils s'inventent eux-mêmes, ils prennent leur valeur sur le marché du travail des intermittents.
Oui, mais alors c'est extrêmement compliqué, parce qu'on est dans un système où il faut payer son loyer, il faut payer sa nourriture, il faut tout payer aujourd'hui, donc il faut quand même qu'il y ait cette valeur argent qui circule. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à l'occasion du 100e anniversaire de la Société des Nations Unis à Genève le 10 janvier dernier à Antonio Guterres, avec ce collectif que vous avez cofondé de 60 scientifiques. Vous lui avez proposé un programme ambitieux de lutte contre l'effondrement systémique menaçant nos sociétés. Alors c'était quoi ?
Alors ce qu'on a proposé, c'est de lancer une série de ce qu'on appelle les territoires laboratoires partout dans le monde, avec un appel d'offres. Il y a beaucoup d'argent. Vous disiez aussi dans votre présentation du sujet tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent qui se perd, voilà, qui se gaspille, qui est corrompu, etc. On met de l'argent, mais nous pensons qu'une partie de cet argent, nous pourrions le réinvestir dans ce que nous appelons des territoires laboratoires, qui seraient capables de faire une transition, des territoires en transition, comme ça se dit d'ailleurs déjà, hein, c'est même un label, les territoires en transition, mais qui s'attaqueraient à des questions urbaines, à des questions industrielles, pourquoi faire ? Pour inventer une nouvelle économie, industrielle, urbaine, basée sur la lutte contre l'entropie, et en généralisant une démarche qui est inspirée de ce que nous appelons le revenu contributif, qui rémunère des gens pour développer leur savoir, même s'ils n'ont pas d'emploi. C'est un revenu qu'on distribue a priori, mais qui est conditionné, comme chez les intermittents du spectacle, où on va valoriser ce qu'on a appris dans des domaines. Alors ça peut être, moi je discute beaucoup avec un État qui est le Kerala en Inde, voilà. Il y a des très très gros problèmes avec la montée des eaux, comme au Sénégal d'ailleurs, à Saint-Louis du Sénégal, il y a très très gros problèmes aujourd'hui. Et nous disons, créons un laboratoire avec ce territoire et inventons quelque chose. Et faisons que les énormes masses financières qui circulent dans le monde aujourd'hui, qui spéculent, une partie vienne là et fasse un petit peu de l'investissement dans l'avenir avec les habitants. Parce qu'il ne faut pas croire que les habitants sont des imbéciles, les habitants connaissent leur pays bien mieux que la finance, et donc il faut travailler avec eux. Et il faut vraiment investir en eux. On dit aussi qu'il y a des problèmes migratoires. Bien sûr qu'il y a des problèmes migratoires. Mais si on n'investit pas dans les pays où il y a ces problèmes migratoires, les problèmes migratoires ne feront qu'augmenter. Or, une des causes de migration fondamentale, c'est le changement climatique. Donc il faut complètement avoir la copie de l'ONU. C'est ce que nous avons écrit à Guterres, qui nous écoute. Parce que c'est Richard
Sennett. C'est la question que j'allais vous poser.
C'est Richard Sennett qui lui a remis la lettre. Mmh. C'est son conseiller personnel. Et Richard Sennett fait partie de ce groupe. Donc après, l'ONU, c'est une grosse maison, compliquée à manœuvrer, c'est encore bien plus compliqué.
Qui n'impose jamais rien.
qui n'impose jamais rien. Donc tout le monde le sait, on le sait bien, RFI en particulier. Et nous, nous disons, nous sommes des légalistes, nous disons il existe des institutions, il faut s'adresser à elles. Et en attendant, nous lançons avec l'association des amis de la génération Thunberg des écoles. Nous sommes en train d'en lancer en ce moment en Croatie, par exemple, voilà, pour commencer à créer ces laboratoires, même si l'ONU ne met pas d'argent dedans.
Oui, parce que l'idée, ce que vous attendez en fait de l'ONU, c'est des financements pour une durée de 3 ans renouvelables avec l'impératif d'évaluer les actions menées.
Et en créant ce que nous appelons une internation qui serait composée avant tout de scientifiques, d'artistes, d'autorités. Je pense à Achille Mbembe, par exemple, qui est aujourd'hui qui enseigne à Johannesburg, à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on écoutait, c'est pour ça que je dis cela tout à l'heure, une jeune femme dont les parents sont des agriculteurs d'Afrique du Sud, est très exposée à tous ces problèmes. C'est un grand pays aussi, puissant d'ailleurs, avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, nous pensons que toutes ces énergies, il faut les solliciter. Il faut les mobiliser, ces énergies, dans une nouvelle rationalité économique qui n'est pas, l'idée, c'est pas de dire on va renverser le capitalisme, pendre les banquiers, etc. C'est pas du tout notre truc.
Et raisonnons à l'échelle des territoires.
Partons de choses pratiques, concrètes, parce qu'en plus, si on écoute bien ce que dit le GIEC, il nous reste que 7 ans pour prendre le virage.
Alors il y a un livre issu de ces recherches interdisciplinaires qui sera publié à la fin de l'année.
Oui, même un petit peu avant, j'espère, avant l'été. Il sort aux éditions Les Liens qui Libèrent aussi. Il s'appelle « Éléments de réponse », sous-titré à Antonio Guterres et à Greta Thunberg. Et il paraît aux États-Unis. Il va sortir beaucoup plus vite aux États-Unis, d'ailleurs, aux éditions Open Humanities Press.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va suivre tout cela bien attentivement. On peut aussi, parce qu'on l'a dit au début de cette émission, vous êtes philosophe et alors vous avez mis en ligne, il y a un site internet où on peut suivre vos cours.
Oui.
Enfin, pas que les vôtres d'ailleurs.
Alors,
mais...
il y a plusieurs sites, à vrai dire. Il y a mes cours, pharmacon.fr, ça s'appelle. Il y a mon institut, Institut de Recherche et Innovation. Ça se trouve très facilement sur internet, sur le web. Et puis, on vient de créer un blog sur Mediapart. Qui s'appelle Les Amis de la Génération Thunberg. Voilà. Et nous sommes en train de créer une école en ligne qui sera dédiée à ces questions-là, voilà, avec la Génération Thunberg.
Beaucoup de démarches à suivre. Donc, merci beaucoup, Bernard Stiegler, d'être venu dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle. Alors, attendez, voilà. Ça s'appelle Qu'appelle-t-on penser, la leçon de Greta Thunberg. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast et retrouver aussi nos invités en vidéo sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
En 2019.